Alors, j'ai écrit ce livre parce que je me suis aperçu que le mot populisme était déjà entré dans la catégorie des mots qui ont trop servi, c'est-à-dire des mots caoutchouc en quelque sorte, et c'est devenu un terme, il faut bien le dire, surtout péjoratif, et dont l'usage péjoratif interdit en quelque sorte qu'on s'interroge pour en connaître la nature, l'essence. Mon livre n'est pas du tout un livre en faveur du populisme. D'abord parce que ça ne veut pas dire grand-chose, compte tenu de la diversité des mouvements populistes, mais c'est une tentative qui s'inscrit dans une démarche de science politique pour savoir qu'est-ce que c'est le populisme, en quoi c'est une nouveauté, en quoi c'est la résurgence éventuellement d'autre chose. Vous parliez du boulangisme, qui n'est pas un mauvais exemple de populisme à l'ancienne. C'est ça le fond de ma démarche. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en première analyse sur le populisme? C'est qu'il est le résultat d'un phénomène qu'on constate depuis longtemps, mais qui n'a cessé de s'accélérer. C'est l'extraordinaire défiance des classes populaires, et même plus largement d'une grande partie des classes moyennes, envers les élites, qu'elles soient politiques, économiques, financières, sociales ou médiatique. Les gens n'ont plus confiance, et on le voit dans toute une quantité de scrutins, ils n'y croient plus. On a pu parler de sécession de la plèbe, pour reprendre une vieille expression. C'est un peu cela. Toute une partie de la population, qui n'est pas loin des deux tiers aujourd'hui, prend de la distance vis-à-vis de ce qu'on appelait les partis de gouvernement, c'est-à-dire les vieux partis politiques, et puis fait savoir qu'il n'en veut plus. Alors il y a à cela évidemment plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est ce qu'on a appelé la crise de la représentation, c'est-à-dire le fait que le peuple considère qu'il n'est plus représenté par les élites, que les élites ont en quelque sorte confisqué le pouvoir à leur propre profit, en fonction de leurs seuls intérêts, et puis qu'eux sont marginalisés. Un autre élément très important a été le recentrage prodigieux des programmes. Les sondages montrent que depuis 30 ans, le nombre de gens qui ne voient plus, qui ne comprennent plus qu'est-ce qui sépare les partis de droite et les partis de gauche, n'a cessé d'augmenter. On est aujourd'hui de l'ordre de 80%. Alors même si c'est masqué à la faveur de certains scrutins, notamment de l'élection présidentielle, qui crée une bipolarisation de type assez classique, il n'empêche que les gens ne voient plus très bien la différence entre les partis de droite et les partis de gauche, que ces partis sont eux-mêmes confrontés à une grande crise d'identité, que l'on voit très bien dans les partis de droite et les partis de gauche, à l'heure actuelle. Regardez les débats à l'intérieur de la primaire du Parti socialiste, par exemple. Un troisième élément très important a été que ces dernières décennies, nous avons assisté à des phénomènes extrêmement importants de transformation de la vie quotidienne des gens, de phénomènes d'une grande ampleur. Je pense à trois phénomènes principaux, évidemment. D'une part, la question de l'immigration. D'autre part, la mondialisation. Et troisièmement, les conséquences de la construction européenne. Alors, il y a eu dans ces trois occurrences un discours consensuel et ronronnant, c'est-à-dire que on nous a expliqué successivement que l'immigration était une grande chance pour la France, que la mondialisation serait heureuse et que l'Europe allait apporter solution à la plupart des problèmes. Et puis, les gens, dans leur vie quotidienne, ont constaté que ce n'était pas exactement ça, que l'immigration engendrait quand même un certain nombre de pathologies sociales, de problèmes d'insécurité auxquels les classes populaires étaient directement confrontées, problèmes qui s'étaient évidemment encore aggravés avec la montée de l'islamisme politique, du djihadisme, les attentats, etc., qui ont créé le climat que vous connaissez. La mondialisation, pour la plupart des gens, s'est traduite par d'abord une rigueur budgétaire qui a pesé lourdement à la fois sur les salaires, sur les modes de vie, sur le niveau de pouvoir d'achat, avec le phénomène des délocalisations, avec la mise en concurrence brutale des travailleurs européens avec des main-d'œuvre de pays exotiques travaillant pour des sommes absolument dérisoires. Et enfin, l'Europe, qui devait être une solution à une foule de problèmes, s'est avérée être un problème supplémentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, ce que je trouve triste d'ailleurs, l'Europe est considérée comme une sorte de repoussoir. Or, sur ces trois problèmes, que sont l'immigration, la mondialisation et l'Europe, les gens voient bien qu'on ne les a jamais consultés. Et que les rares fois où ils ont été consultés, on n'a pas tenu compte de leur vote. Et c'est là qu'il faut rappeler qu'un point de départ du populisme en France a été incontestablement en 2005, le vote sur le référendum, sur le traité constitutionnel européen, qui était déjà le modèle parfait du phénomène populiste. C'est-à-dire que tous les grands partis disaient « il faut voter oui ». Tous les grands journaux disaient « il faut voter oui ». Tous les observateurs disaient « il faut voter oui ». Toutes les chaînes de radio et télévision disaient « il faut voter oui ». Et les sondages disaient « il n'y a pas de problème, le oui va évidemment l'emporter ». Et là-dessus, c'est non. Et stupeur, effroi, fureur. Et c'est exactement le même phénomène que l'on a vu se reproduire avec le Brexit, puis avec l'élection de Trump. Jusqu'au dernier moment, tout le monde a dit « c'est évident ». C'est le Brexit ne se fera pas, Hillary Clinton va être élue. Je me souviens avoir suivi l'élection présidentielle assez tard dans la nuit du vote, jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas? Tous les journalistes qui étaient là nous disaient qu'il n'y a pas de problème, c'est Hillary Clinton qui l'emporte. Donc, à chaque fois, on retrouve ce même phénomène. Et la conséquence immédiate de ce phénomène, c'est un déchaînement médiatique contre le populisme et, en fait, très vite, contre le peuple. Je me souviens de l'apostrophe de Daniel Cohn-Bendit, qui avait au moins le mérite de la radicalité et de la franchise, et qui disait « il y en a marre du peuple ». Et au fond, il disait de manière très brutale ce que pense la classe politique dominante. C'est-à-dire que le peuple, il y en a marre, parce que le peuple, il vote jamais comme on attend qu'il vote. On n'arrive pas à le rallier à l'idéologie dominante, et le phénomène a augmenté en proportion.